Alors, comment allez-vous bien? Ah, c'est comme quoi les questions dirigées marchent toujours mieux que les questions ouvertes. Bien. Le royaume de Dieu, on continue. La semaine dernière, vous vous souvenez du thème principal du message de la semaine dernière, pour ceux qui étaient là, c'était le royaume de Dieu, mais les valeurs du royaume. Et la première valeur, c'est le l'humilité, c'est bien. Vous avez travaillé dessus? Ouais? C'est bien. Moi aussi. J'arrête de dire maintenant que je suis le meilleur. L'humilité, donc on avait une première valeur du royaume de Dieu. Et je rappelle, on nous parle souvent du royaume, mais le but de ces prochaines semaines, c'est de vous d'expliquer ce qu'est exactement le royaume de Dieu. Ses valeurs, sa mentalité, on va aborder quelques sujets. Et puis on va essayer de définir ensemble les valeurs et définir nos actions ou nos mentalités qui s'y opposent. Voilà. OK, on continue là-dessus? Vous êtes d'accord avec ça? Alors je vous résume juste pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière. Le royaume de Dieu est la sphère où Dieu règne, gouverne. On est d'accord? Deuxième, pour voir le royaume, il faut naître de nouveau. Hein, tant qu'à faire, c'est ce que Jésus a dit. Donc, si vous n'êtes pas né de nouveau, c'est le moment ou jamais de donner votre vie au Seigneur. Comment on donne notre vie au Seigneur? Ben, on reconnaît que nous sommes pécheurs. On reconnaît que nous avons besoin de son pardon. Et on reconnaît qu'il n'y a que par Jésus que nous puissions être pardonnés et réconciliés avec le Père. Voilà. Et en retour, ben, Dieu nous donne son esprit. Il envoie son Saint-Esprit en nous et nous devenons des nouvelles créatures. Et toutes choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles en Jésus-Christ. Et puis, il y a le royaume de Dieu implique l'obéissance, vous vous souvenez ça? Hein? Le degré dans lequel je marche avec Dieu, si je m'écarte d'un degré, si je fais plusieurs dizaines de kilomètres, l'objectif que je vais atteindre sera en décalage par rapport à ce que Dieu voulait. Donc, le royaume vraiment implique l'obéissance et la soumission à la volonté de Dieu. Et j'ai besoin d'être authentique pour évaluer mon comportement du royaume. Être authentique, c'est-à-dire être vrai. D'accord? Un vrai de vrai. Et puis, c'est le but du Saint-Esprit de la Bible de nous conduire dans toute la vérité. Et la première valeur que je recherche, donc, l'humilité. Bon, et comment on devient humble? Eh ben, c'est quand on met à mal l'orgueil. Et ça ne sert à rien de demander au Seigneur de nous rendre plus humbles. C'est nous qui mettons à mal l'orgueil. D'accord? C'est nous qui devenons humbles. Bon, forcément, on est aidé par le Saint-Esprit, hein, mais j'arrive. Ah, ça y est. Alors, maintenant, on va voir l'engagement. Bon, je vous ai mis un petit truc sympa. Je veux dire, ça va leur changer un petit peu. Mettre une petite image. Moi, j'aime bien cette image. Mais en fait, ce n'est pas par hasard que je l'ai fait. Hein. Ce n'est pas juste pour faire beau. Parce qu'il me semble, en tout cas, il y a deux valeurs que je vais aborder avec vous aujourd'hui, c'est l'engagement et l'unité. Parce que il me semble, en tout cas, qu'avec l'humilité, ce sont deux valeurs qui sont essentielles au royaume de Dieu. Parce que Jésus aussi a enseigné un peu là-dessus, il a prié là-dessus, il a corrigé, enfin, il a vraiment amené ses disciples pendant ces 3 années à être humbles. Hein? Pierre a fait la triste expérience de ce qu'étaient les gars qui disent « Moi, je te suivrai partout, je suis là, t'inquiète pas, etc. » Et puis, il a quand même repris ses disciples lorsqu'il se sentait supérieur aux autres. Et puis, il a prié pour l'unité dans Jean chapitre 17. Et puis quand même, il a dit quelques petites choses sur l'engagement qu'on va voir maintenant. Ce que j'aime dans l'engagement, en fait, c'est l'aspect aussi équipe, vous voyez? Parce qu'en fait, quand je m'engage avec Dieu, je m'engage aussi dans une équipe qui est le corps de Christ. Voilà pourquoi j'ai mis ces petits carrés avec ces petits bonhommes. L'engagement, c'est une mesure clé de service dans le corps de Christ. Autrement dit, quand je m'engage, je ne m'engage pas à être ou à devenir quelqu'un. Quand je m'engage à faire. Ah, vous connaissez le dicton nordiste, ch'ti, grand parleux, petit faiseux. Non. Quand je m'engage pas simplement en parole, mais à faire les choses. Il y a plusieurs paroles de Jésus sur le sujet. Que votre oui, que votre parole soit oui, oui, non, non, ce qu'on y ajoute vient du malin. On va détailler après. Déjà, oui, oui, ou non, non. Oui, oui, non, non. Oui, oui, ce n'est pas le petit personnage de dessin animé. Hein. C'est oui, oui, c'est un engagement de ma parole. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Autre engagement. Un scribe s'approcha et lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Un autre d'entre les disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'aller ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui répondit, « Suis-moi, laisse les morts ensevelir les morts. » Et puis, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Donc j'ai médité un peu tout ça, j'ai prié. Le but de ce message, c'est peut-être pas trop de rentrer dans les détails, mais moi j'ai tiré quelques idées principales de ce qu'est l'engagement. Ah non, j'en ai encore une. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il alors ? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, vends. Ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste. Il avait de grands biens. Pierre, prenant la parole, dit, voici, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Quand sera-t-il pour nous ? Jésus lui répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, sa femme, ses enfants ou ses terres ou ses maisons recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Alors, plusieurs choses qu'on peut... Ça va venir, il faut juste insister. L'engagement véritable demande un oui, franc. Pas peut-être ou on verra. Ce que Jésus attend de nous, c'est pas... Et d'ailleurs, le jour de notre conversion, ce qu'il attend, c'est pas... Oui, peut-être que je veux bien être pardonné de mes péchés, peut-être que je veux bien que tu deviennes mon... Non, il attend de nous un oui, franc. Et vous savez, aujourd'hui, on est dans une société de l'à peu près, de l'engagement d'à peu près. Et ce que Jésus attend de vous, attend de moi, attend de nous, attend de ses enfants, c'est oui, vas-y. Oui, Seigneur, je veux te donner ma vie. Oui, Seigneur, je veux te servir. Oui, Seigneur, je veux que tu sois mon sauveur. Oui, Seigneur, je veux que tu sois Seigneur. L'engagement commence toujours par la proclamation de la parole. Je veux te suivre, Seigneur. Oui. En s'engageant, il faut s'armer à l'idée de souffrir. Ah, je sais, ça ne va pas plaire, ce que je vais dire. Mais attention, je vais donner une nuance. On n'est pas dans la pensée du catholicisme où la souffrance, c'est très bon. Hein. Que les choses soient claires. Je ne suis pas en train de vous dire, eh ben, si tu souffres, c'est tant mieux pour toi. Non. Il faut s'armer à l'idée de souffrir. Il faut s'armer à l'idée que les choses ne seront pas toujours faciles. L'Évangile, tel que nous le prêchons et tel qu'il est, parce qu'il est la vérité, ne dit jamais « Viens au Seigneur et tout ira bien ». D'ailleurs, je ne pense pas qu'aucun de nous aurait le culot de dire « Ah non, moi, depuis que je suis au Seigneur, tout va bien. Oh, j'ai la belle vie. Hein. C'est le club méditerranéen, le royaume de Dieu. » Non, ce n'est pas vrai. Par contre, quand on s'arme à l'idée de souffrir, lorsque la souffrance, lorsque l'épreuve arrive, on est à même déjà de se dire « oui, c'est normal, ça fait partie des choses normales peut-être par lesquelles je dois passer ». Et puis, autre chose, quand on s'arme dans l'idée de souffrir, on rentre dans une capacité de se dire « comme Paul, oui, je suis frappé mais encore debout ». Vous savez, Paul fait une liste de toutes les choses qui lui sont arrivées. Il a été lapidé, il a été rejeté, il a été, enfin, vous savez tout. On l'a laissé pour mort, il dit « j'ai été laissé pour mort et bien que vivant ». Et Paul, quand on s'arme à l'idée de souffrir, c'est qu'on compte aussi sur ce que Dieu pourra me faire traverser les épreuves dans lesquelles je vis. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que quand je m'engage dans quelque chose, je dois apprendre les bonnes choses et que les choses soient claires. Dieu est le Dieu de la bénédiction. Il veut nous bénir. Mais la bénédiction, parfois, pour entrer dans la bénédiction, il nous faudra passer par des étapes, par des choses un peu plus compliquées. Et ça, il faut être conscient de ça. D'accord ? Je ne pense pas que quelqu'un qui s'engage dans l'armée dira « bah moi, c'est bon, je porterai un beau costume et je ne ferai que défiler le 14 juillet ». Quand tu t'engages dans l'armée, tu t'engages en réalité à défendre ton pays, à défendre les valeurs de ton pays et pourquoi pas aller sur le terrain d'expédition où tu vas mettre ta vie en danger. Tout engagement nécessite un renoncement à quelque chose. Je suis désolé de vous le dire, mais c'est ça. Alors, pourquoi je suis désolé de vous le dire ? Parce qu'on pense parfois qu'on peut courir 36 lièvres en même temps. Regardez ce jeune homme riche. Il dit, moi, je te suivrai partout où il ira. Jésus, il a remarqué, ouais, mais tu as encore une richesse. Alors, je vous parle des richesses, l'argent, mais il y a peut-être des choses sur lesquelles, qui sont très précieuses pour nous, qui ne sont pas forcément des biens matériels, mais d'autres choses qui nous empêchent de suivre le Seigneur. Et parfois, il nous faudra abandonner quelques biens, quelques conforts, quelques relations, quelques principes aussi. Vous savez, des fois, on a des principes qu'on va devoir abandonner en suivant le Seigneur. Et aussi, sans doute, quelques péchés. Et lorsqu'il parle, vous savez, de la personne qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière. Alors souvent, moi, j'ai interprété ça comme notre passé. Je crois, oui. Quand on met la main à la charrue et qu'on s'engage avec le Seigneur, il dit « celui qui regarde en arrière n'est pas propre au royaume ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire aussi, ça c'est quelque chose que je pense, je l'interprète comme ça, hein, que les choses soient claires, c'est une interprétation personnelle, mais je crois et je suis convaincu que je ne peux pas suivre le Seigneur, m'engager dans le royaume de Dieu et continuer à faire ce que je faisais dans le passé. C'est-à-dire qu'il y a des choses que je ne peux plus faire. Je suis désolé de vous le dire, mais c'est comme ça. Autrement dit, il y a des péchés que je dois abandonner ou des habitudes que je dois abandonner. Quand je mets la main à la charrue, je prends l'engagement d'aller devant avec le Seigneur. C'est-à-dire qu'il y a des choses, des habitudes, peut-être des choses du passé que je ne peux et je ne dois plus porter. Alors je sais, ça ne vous encourage pas beaucoup ce que j'y mets, c'est ce que dit la Bible et le Nouveau Testament. S'engager, c'est déterminer des priorités dans nos vies. Regardez, il dit à cet homme, il dit « laisse-moi d'abord enterrer ». Alors je sais, c'est violent comme parole. Hein. Il dit, laisse les morts enterrer les morts et viens et suis-moi. Pourquoi je dis ça ? Parce que je pense que pour servir le Seigneur à un moment donné, il y a peut-être des principes, il y a des choses auxquelles nous sommes fortement attachés qui nous empêcheront parfois d'entrer dans l'engagement avec le Seigneur. Est-ce que je me fais bien comprendre quand je dis ça ? Et en fait, moi, voilà comment je conçois les choses. Aujourd'hui, ma priorité, c'est le royaume de Dieu. Avant mon travail, avant mes loisirs, avant ma priorité, c'est le royaume. Ma priorité, c'est mon engagement dans le royaume de Dieu. Ma priorité, c'est le salut des âmes. Ma priorité, c'est l'édification de l'Église. Ma priorité, c'est que les gens puissent être en communion avec le Seigneur. Ma priorité, c'est celle-là. Et ma, cette priorité-là, elle passe avant mon confort personnel. Enfin, s'engager, c'est obéir, et ça nécessite du courage et de la persévérance. Obéir, ça demande du courage et de la persévérance. Et du véritable engagement découle la récompense. Jésus dira à ses disciples que tous ceux qui auront abandonné justement leur confort, ils régneront avec lui, ils jugeront les tribus d'Israël et ils siégeront avec lui. Moi, j'ai envie quand même, en toute humilité, je n'ai pas envie de me retrouver dans une situation où face au Seigneur, quand je vais me retrouver face à lui, parce qu'on va tous y passer, d'accord ? Je n'ai pas envie de me retrouver en me disant que je passe juste à travers le feu, comme dit l'apôtre Paul. Hein. J'ai envie de me dire, j'ai envie d'attendre, d'entendre le Seigneur me dire quand même, c'est bon, tu as été un fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. Voilà, donc pour l'engagement, je crois que c'est fini. Et puis on va parler de l'unité. Alors je voudrais que vous arrêtiez, vous voyez un peu ce que c'est ? Alors c'est en fait deux rochers. Au milieu, il y a quand même un petit vide qui me paraît bien profond. Et puis là, il y a deux personnes qui se sont rejointes. Et si vous regardez un peu dans le détail, il y a un homme et une femme. D'abord, ils sont totalement différents. Ils ont des sexes différents. Je ne veux pas faire un cours d'anatomie, mais en général, les femmes sont différentes des hommes. Mais regardez ce qu'il y a. Ils viennent de deux directions différentes. Avez-vous remarqué ça ? Je ne pense pas que l'homme soit arrivé avec la femme et qu'il a sauté au-dessus. Ce serait un peu dangereux. Je pense qu'ils viennent de deux endroits différents. Et regardez aussi, ils ne se placent pas juste l'un en face de l'autre. Ils se rejoignent pour former quelque chose de cohérent, de visible. Que forment-ils ici ? Un cœur. C'est-à-dire que pour moi, l'unité, c'est deux personnes qui viennent de deux endroits différents, d'origines différentes, qui n'ont, qui sont pas faits forcément pour bien s'entendre, qui se rejoignent et qu'ils se placent de manière à former quelque chose de cohérent. Autrement dit, tu n'es pas uni juste en venant à l'église le dimanche matin. Je sais, ça va vous taquiner ça. Tu n'es pas uni juste en, je sais pas moi, en parlant un petit peu avec ton frère et ta sœur à la fin du culte. Non, tu t'unis, selon moi, et croyez-moi, j'ai toute une liste de versets bibliques qui pourront confirmer ça. Tu t'unis, tu es uni lorsque tu te places à côté d'un frère, d'une sœur, et que tu fais en sorte que la jonction, l'union entre toi et la personne forme quelque chose de cohérent. Moi, quand j'ai rencontré Maryse, nous nous sommes unis par les liens du mariage et nous avons travaillé pendant toutes ces années à devenir un ensemble cohérent. Enfin, j'espère que ça vous paraît cohérent vu de loin. Moi, je pense que c'est un peu plus cohérent qu'il y a presque 40 ans de mariage l'année prochaine. Vous comprenez ? Parce que nous avons travaillé. Et croyez-moi, Maryse, regardez le truc, elle va dire. Moi, je dis tout le temps, moi, je venais du quartier pauvre de Marc-en-Barœul, quartier ouvrier, vous voyez ? Et pour les anciens, c'était amicalement vôtre. Pour les plus vieux qui ont connu le feuilleton amicalement vôtre, c'était, il y avait un riche et un gars qui venait des quartiers riches et un autre qui venait des quartiers pauvres. Et puis le pauvre devient riche et puis ils se renaissent et ils deviennent copains et puis ils font des trucs ensemble. Mais j'ai dit, rien n'était fait pour que nous entendions. Aucun point commun. Je vous le dis, aucun point commun. Marie, je l'ai trouvé un peu pain bêche, quoi. Précieuse, etc. Non, mais c'est vrai. Et moi, j'étais un casse-cou, etc. Marie aimait les choses tranquilles. Moi, j'étais un vrai casse-cou. Je lui ai cassé des mobilettes. Et avec ces années, qu'est-ce que nous avons fait ? Nous sommes rejoints l'un et l'autre pour former, essayer de former un ensemble cohérent. Dans le corps de Christ, c'est exactement la même chose. Si je vous regarde ici, je scanne qui vous êtes, vous venez avec un passé différent. Vous venez avec des épreuves différentes, avec des croyances différentes. Vous venez avec des caractères différents, des personnalités différentes. Et ce qui fait la force d'une église, du corps de Christ, lorsqu'il est uni, c'est lorsqu'il est ensemble et qu'il fait quelque chose de cohérent. Autrement dit, moi, j'ai envie d'entrer là-dedans avec vous. J'aimerais bien former un petit cœur avec vous. C'est mon côté sentimental. Donc l'unité, c'est le caractère de ce qui ne fait qu'un et qui forme un tout cohérent. Est-ce que vous comprenez ma définition de l'unité ? Quelle est la définition biblique ? Quelques passages. Jésus dira, tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Tu ne peux pas être uni sans donner de toi vers l'autre, et sans que l'autre ne reçoive ça, et sans que l'autre ne vienne te dire aussi, tout ce qui est à moi est à toi. Donc je vous préviens, ne prenez pas d'une manière littérale ce que je viens de dire, je ne vous donnerai pas ma carte bleue. Ensuite, Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, et Jésus a prié, afin qu'ils soient un comme nous. Tiens, qu'ils soient un comme nous. C'est-à-dire que moi, je vais chercher ma définition de l'unité, pas en vous regardant, mais je vais regarder dans ma relation avec Dieu et examiner comment Jésus était pour définir quelle sera ma définition de l'unité. Notamment, Jésus dira, moi je ne fais rien que le Père m'ait donné de faire. Il dira, tout ce que le Père fait, moi je le fais. Et vous voyez, il y avait comme une coordination, une cohérence entre la volonté du Père et le Fils. C'est-à-dire que, exemple tout simple, si moi je décide ici de faire comme je veux et ce que je veux, je ne suis pas uni. C'est-à-dire que je dois être en cohérence avec ce que cette communauté ou ce que l'autorité de cette communauté a décidé de faire. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un. Ouais, parce que souvent on dit, ouais, mais Jésus, il a prié pour ses disciples à l'époque. Non, non. En fait, quand Jésus prie en Jean chapitre 17, il priait pour nous. Et moi, je crois que toutes les paroles de Jésus ont été entendues par le Père qui l'a exaucé. Donc, il prie pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et que je suis en toi. Ah, c'est intéressant, ça. Que tu es en moi et que je suis en toi. Il y a un domaine relationnel. Mes frères et mes sœurs, si vous voulez travailler à l'unité, cessez de venir uniquement le dimanche matin. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Mais recherchez les endroits où vous pourrez bâtir l'unité. Et tout ce qui a été fait ici, dans les petits groupes, dans les temps de partage entre vous, invitez-vous à boire un petit café, invitez-vous à partager votre vie, invitez-vous à manger. Je sais que vous le faites. Mais s'il vous plaît, ceux qui restent isolés, ne soyez pas isolés. Et si vous voyez des personnes isolées dans ce domaine, ne restez pas isolés. Ne les laissez pas isolés aussi. Parce que je vois que l'unité se bâtit dans la relation. Je vous le disais la semaine dernière, moi, je n'ai pas envie d'entendre de quelqu'un, lui ou elle, je ne le sens pas. Moi, je veux connaître. Moi, je veux connaître les gens et je veux qu'ils me connaissent. Et je n'ai pas peur que vous connaissiez mes défauts, mes erreurs. Alors, je veux dire, ça ne me pose aucun souci. Je suis ce que je suis et vous n'avez pas d'autre solution que de m'accepter tel que je suis. et je n'ai pas d'autre solution et d'autre moyen de dire « Ok, cette personne comme ça, eh ben, je la prends et je suis en elle et elle en moi et je vis une vraie relation. » Afin qu'eux aussi soient un en nous pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Regardez la bénédiction derrière. Afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Imaginez l'enjeu, le défi que nous devons relever. Plus nous serons unis, plus le monde croira. Plus nous serons dans un ensemble cohérent, plus le monde croira. Certains vous diront, pour que le monde croie, il faut prêcher l'évangile partout. Oui, je vous l'entends, mais si tu vas prêcher dans la rue, si tu vas prêcher où que tu sois dans le monde, mais que tu n'es pas uni au corps et uni au Père, ça ne sert à rien. Tu vas ramener les gens dans une communauté. Si cette communauté n'est pas unie, la personne va se sauver. Vous savez, les gens qui ne sont pas unis, ça se voit tout de suite. Pour ceux qui s'intéressent au sport, hein, au foot notamment, il faut faire attention parce qu'il y a des gens qui tombent quand ils jouent au foot et après ils se blessent. Mais vous le voyez tout de suite, la cohérence d'une équipe de foot qui est unie. Aujourd'hui, mon fils Timothée est tout fier parce que Lens est arrivé deuxième du championnat. Ils viennent de 3 victoires. Ils n'ont pas le meilleur budget. Et je ne fais pas de paix pour les Lensois, je ne suis pas particulièrement soi. Mais ils ont quelque chose que d'autres équipes n'ont pas. Vous savez ce qu'ils ont ? La solidarité et l'unité dans l'effort. Je les ai regardés jouer et je n'ai pu qu'abdiquer devant mon fils qui disait que c'était la meilleure équipe de Ligue 1 aujourd'hui. Timothée, si tu m'entends, ça ne durera pas. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Afin qu'ils soient parfaitement un. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Regardez ce que Jésus dit ici. Afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Là encore, c'est l'exemple de la relation de Jésus avec le Père. Lisez les évangiles et vous verrez que Jésus était vraiment uni au Père. Et que faisait-il ? Régulièrement, il allait prier le Père. Et que nous devons nous faire pour être parfaitement un ? Nous, avec le Père, forcément, nous devons prier. Mais nous devons prendre du temps pour prier ensemble et passer du temps ensemble, partager ensemble, afin qu'il soit un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé. Et il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Waouh ! Est-ce qu'on se rend compte que la gloire de Jésus est sur nous et que nous devons faire quelque chose de cette gloire dans notre vie. En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père et tout ce que le Père fait, le Fils le fait aussi pareillement. Ça, je vous l'ai dit. Mais Jésus leur dit, mon Père travaille jusqu'à maintenant, moi je travaille aussi. Bon, on va aborder un sujet intéressant. Imaginez l'unité. Je reprends l'exemple d'une équipe de football. Ce qui a fait la force de l'Ajax Amsterdam dans les années 70, c'était le football total. Tout le monde attaquait, tout le monde défendait. C'était devenu un modèle, et c'est encore devenu un modèle aujourd'hui, de pas mal d'entraîneurs. Le football total. C'est-à-dire que les attaquants défendaient tout de suite, et les défenseurs défendaient. Bon, je vois que j'intéresse que les hommes, là, les femmes s'en foutent complètement. Donc, qu'est-ce que je peux prendre comme exemple ? Non, mais enfin bref. En fait, si je veux être uni, je suis uni dans l'effort. Autrement dit, tu ne peux pas prétendre être uni, et je vais aller loin dans ce que je dis, mais tant pis, j'assume. Si, par exemple, imaginons un instant que nous déclarons ici une semaine de jeûne et de prière et que tu ne t'engages pas dans cette semaine de jeûne et de prière, tu n'es pas uni. Pourquoi ? Parce que Jésus, lorsqu'il voyait le Père travailler, il travaillait aussi. Quand tu vois ton frère et ta sœur travailler, travaille aussi. En fait, pourquoi j'ai placé l'engagement et l'unité en même temps ? Parce que tu ne peux pas dissocier ça. Tu dois t'engager dans le but d'être uni aux autres. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais le Père qui demeure en moi fait lui-même, mais le Père qui demeure en moi fait lui-même les œuvres que je fais. Regardez, il dit encore, il y a une unité aussi dans les paroles. Unité dans la vision, unité dans les paroles, unité dans les projets, unité dans les priorités. Tout ce que Jésus faisait n'était que ce qu'il y avait sur le cœur de son Père. Et comment allait-il chercher ça ? Vous allez dire, c'était le Fils de Dieu, il voyait Père lui parler. Ouais, non, mais Jésus, régulièrement, la nuit, il allait chercher le cœur du Père dans la prière. Allez chercher le cœur de votre frère, de votre sœur. Prenez le temps, écoutez, ne parlez pas uniquement de vous. Vous savez, on est fort pour ça. Hein. Moi, ceci, moi, cela. Mais allez chercher ce qu'il y a dans son cœur. Mon frère, ma sœur, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur ? Qu'est-ce que tu ressens aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu vis aujourd'hui ? Rejoignez-le. Quels sont tes projets ? Qu'est-ce que je peux faire pour que tes projets puissent devenir une réalité ? C'est ça l'unité. C'est pas être 100, 200, 300 le dimanche matin. 1000, 15 000. C'est pas ça l'unité. L'unité est mise en commun de ce que nous possédons. L'unité se définit et s'exprime à travers des actions communes et coordonnées. L'unité est le fruit d'une relation avec le Père et le Fils et entre nous. L'unité, c'est suivre le modèle de personnes qui marchent avec Dieu. Regardez comment marchent les disciples. Ils ont observé Jésus pendant 3 ans. Et lorsque vous regardez les écrits, vous vous apercevez que c'est imprégné de ce qui était Jésus. Et vous savez, moi, beaucoup d'hommes et de femmes que j'ai rencontrés et qui ont été vraiment, pour moi, qui m'ont beaucoup parlé sur l'unité, j'ai essayé de calquer mes pas avec eux. Ah, vous allez me dire, oh, c'est pas bien, maudit soit celui qui se confie en l'homme, et béni soit celui qui se... Non, parfois Dieu met des personnes sur notre route qui vont nous apprendre à marcher comme eux. Et je n'ai pas honte de le dire. Et pourquoi je n'ai pas honte de le dire ? Parce que l'apôtre Pierre le dit, que les anciens doivent être des modèles pour le troupeau. C'est-à-dire que moi, je peux être un modèle. Je sais, regardez pas trop de choses, retenez ce qui est bon, mais vous pouvez être un modèle pour les autres, un modèle d'unité. Autrement dit, moi, je me mets à la place d'une personne nouvelle qui arrive et qui voit un modèle d'unité dans une église. Comment va-t-elle marcher ? Elle va marcher, elle va entrer dans un modèle d'unité. Parce que la culture de l'unité sera tellement bien implantée que les gens marcheront dans l'unité. Là, si vous entrez dans une église, entre nous, hein, et ça, je sais que ça n'existe pas, mais vous arrivez dans une église où vous entendez les uns parler sur les autres, les gens parleront les uns sur les autres quand ils arriveront au Seigneur. Parce que vous les amenez dans un environnement qui est celui-là, tout simplement. Hein. C'est nous qui sommes qui allons le thermostat de l'Église. Et que les choses soient claires, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas l'ancien, ce n'est pas les responsables. C'est vous qui êtes le thermostat de ce qu'est cette Église. Notre unité témoigne de Jésus et montre au monde qui est le Christ. C'est vrai, hein ? Combien de fois des personnes sont venues ici ? Elles ne sont pas toutes restées, hein ? Mais des gens sont venus ici. Et ils m'ont dit ça. Ils m'ont dit qu'ici, ils sentaient vraiment qu'ils étaient aimés. Combien de personnes m'ont dit ça ? C'était énorme. Moi, des fois, je suis un peu surpris, mais des gens ressentent l'atmosphère. Vous savez, si nous témoignons de l'unité de Jésus, nous allons montrer au monde qui est le Christ. Un caractère de celui qui divise. Allez, on aborde le sujet intéressant. Il ne cherche pas la communauté. Être isolé lui satisfait pleinement. Il fait les choses dans son coin. C'est mon activité, mon service, mon don, mon avis. Mais il se fout de l'avis des autres. mais vous n'êtes pas comme ça. Il fait comme il veut, quand il veut, et ne tient pas compte des conseils et de l'avis des autres. Il pense qu'il n'a pas besoin des autres, il est auto-satisfait. Il s'auto-satisfait de qui il est. Mais ça n'existe pas dans le royaume. Il refuse de reconnaître les capacités, les dons, les valeurs des autres. Il ne voit que leurs défauts. Si vous voulez enfin vous unir, voyez ce qu'il y a de bien dans l'autre et arrêtez ce qu'il y a de mauvais. Donc, si vous voulez être unis avec moi, commencez à regarder ce qu'il y a de bien en moi. Il y a tellement de choses qui divisent en moi, en toute honnêteté. Mais regardez ce qu'il y a de bon en Bruno, tout simplement. Il veut bien vivre les relations de loin, mais il refuse un approfondissement relationnel. Des fois, on se protège. On ne veut pas que les gens connaissent trop ce qu'il y a à l'intérieur de nous. C'est une erreur. Moi, les fois où j'ai partagé le plus qui j'étais, c'était dans les moments où j'étais le plus faible. J'ai fait 2 burn-out dans ma vie et c'est dans ces moments-là où j'ai tout dit. Je lâchais tout. Je lâchais prise. C'est le thème de la semaine prochaine. J'ai lâché prise. Et c'est dans ces moments-là que les gens ont enfin pu me connaître. Question ? Suis-je vraiment engagé dans le royaume ? C'est la question que je vous pose aujourd'hui. À l'instar de ce que vous avez entendu, je sais, ce n'est pas un cours de théologie que je vous ai donné sur l'enseignement, c'est sur l'engagement. Je veux juste vous interpeller, de vous dire, dans les semaines qui viennent, est-ce que je suis vraiment engagé ? Et moi, vous savez que quand je parle de l'engagement, je parle surtout de l'engagement dans cette communauté. C'est ce qui m'intéresse. Alors, je ne dis pas que vous n'êtes pas engagé ailleurs pour le royaume, mais pour cette communauté, est-ce que je suis vraiment engagé ? Est-ce que je suis engagé pour le royaume de Dieu ? Est-ce que je suis passif ? Ou est-ce que je suis Jésus et que je fais ce qu'il me demande ? Et puis, c'est une question que je vous pose aussi, n'est-il pas temps pour moi de m'engager, de me réengager à suivre le Seigneur ? Peut-être que là, vous êtes refroidi dans les temps qui viennent, dans les temps qui viennent de se passer. Peut-être qu'il y a eu des épreuves, peut-être qu'il y a eu des déceptions, peut-être... Et le Seigneur te dit, engage-toi, avance, remets la main à la charrue. Ok, on t'a fait du mal, ok, c'était encore une fois dans l'église, ok, c'était des chrétiens, ok, ok, ok. Le Seigneur, il sait tout ça. Hein. Il dit, est-ce que tu veux bien mettre la main à la charrue et avancer avec moi maintenant? Je crois que plusieurs sont interpellés par ça ce matin. Cette communauté a tellement besoin de moi. Pas de moi, hein, de toi. D'accord ? C'est la question qui vous est posée à vous. Hein. N'est-il pas temps que je m'y engage pour servir le corps de Christ ? Question. L'unité est-elle ma priorité ? Je suis en train de conclure là. L'unité est-elle ma priorité ? Suis-je prêt à ne faire qu'un avec mes frères et sœurs pour former un corps cohérent. J'aimerais que vous gardiez cette image de ces 2 personnes qui se rejoignent pour former un cœur. Alors, on n'est pas là pour faire une communauté à l'eau de rose. Hein. On va former un cœur ensemble. Non, mais on veut former quelque chose de cohérent ensemble, un projet commun ensemble, vivre les choses ensemble. Pas juste passer du temps ensemble. J'espère que j'ai bien insisté sur la définition, sur ce que j'ai compris de l'unité dans le royaume de Dieu. Cohérent. Fonctionnel. Ensemble. Bien coordonné, ressemblant à ce que Jésus désire. Et puis, suis-je prêt à m'engager et à m'unir ce matin? That is the question. Les 3 premières valeurs, humilité, engagement, unité. Humilité, engagement, unité. Ce serait un beau slogan, ça. Si je devais être élu pasteur, je verrais bien ma photo en dessous. Humilité, engagement, unité. Bon, Bruno, reviens à l'humilité, s'il te plaît. Les prochaines, je vous parlerai de l'autorité. On verra ce qu'est l'autorité. On verra ce qu'est l'autorité, que le royaume est le royaume de l'autorité. On verra quelle est l'autorité de Dieu, comment elle est reléguée, enfin donnée à l'homme pour qu'il puisse lui-même se servir de l'autorité à bon escient, toujours. Et on s'apercevra aussi que l'autorité, elle est accompagnée de la puissance. Humilité. Je vais être humble, Seigneur. Je veux m'engager avec toi ce matin. Et si j'étais découragé dans ce que j'ai vécu, je me réengage à te suivre. Et je veux m'unir à toi ce matin, Seigneur. Mais je veux aussi m'unir avec mes frères et mes sœurs. Je veux m'unir à ce beau petit couple de jeunes mariés. Je veux m'unir avec Eric. Je voudrais tellement passer du temps avec lui, plus encore. Même si on en a pris, mais je veux plus encore. Je voudrais prendre du temps avec vous dans la prière. Je voudrais vivre des temps de prière où la présence de Dieu sera telle, où Dieu se satisfera tellement de notre cœur uni à l'autre qu'il ouvrira les écluses des cieux. Je voudrais porter davantage vos fardeaux. Je voudrais partager davantage vos peines. Et je voudrais tellement, tellement partager vos joies. Pourquoi ? Parce que c'est là la volonté de Dieu. C'est la volonté du Seigneur. Humilité, engagement, unité. Et vous pouvez compter sur moi dans les jours, dans les semaines, dans les mois à venir pour, si je vois le moindre, pardonnez-moi à l'avance, parce que je vais peut-être vous secouer, peut-être vous embêter. Mais si je vois qu'il y a quelque chose qui vient entacher ça, je le dénoncerai. Et ce que je vous demande de faire, s'il vous plaît, si vous voyez en moi de l'orgueil, venez me le dire. Parce que peut-être que j'ai besoin de voir encore des choses. Si vous voyez que je ne me suis pas assez engagé dans certaines choses, dites-le-moi. Et si vous voyez qu'à un moment donné, je puis devenir quelqu'un qui divisera plutôt que d'unir, dites-le-moi. C'est ça, le corps de Christ. Nous allons prier. Je prie, Père. Je prie, Père. Ce matin, je te demande ces trois mots. Humilité, engagement et unité. Je te prie et je te demande pardon parce que tant de fois j'ai dit des choses et je n'ai pas été quelqu'un de fiable. Tant de fois j'ai dit que j'allais faire et je me suis engagé par la parole et tant de fois mes mains, mes pieds, mon corps n'a pas accompli ce que j'ai dit. Je veux revenir à un véritable engagement. Je ne veux plus tenir compte de ce qui s'est passé derrière moi. Ce matin, je vais mettre la main à la charrue et je veux avancer. Je veux être propre pour le royaume. Et je te prie, Père, aussi, parce que je veux travailler à l'unité dans le corps de Christ. Et cette unité, elle commence avec ma femme ou avec mes enfants dans les maisons, mais elle s'étend aussi ici à Bethsalem. Et je prie et je demande que tu m'aides non pas à diviser, à détruire ce que tu fais, mais à m'unir avec les autres pour travailler, aux valeurs de ton royaume. Je te demande de bénir. Je te demande d'édifier. Je te demande de restaurer. Je me réengage aujourd'hui avec toi. S'il y a des personnes qui ont besoin de dire ça au Seigneur, dites-le dans votre coin. Je me réengage avec toi. Et je tiens compte de l'engagement. Je veux être quelqu'un de fiable.